cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 29 septembre 1994.
Pas celui de l'éthique. Et cependant, le fondement de l'éthique, c'est la philosophie du vivant. C'est sûr, le cheminement de la philosophie de l'art n'est pas celui de la philosophie éthique. Et pourtant, c'est parallèle. Alors, c'est ça qui est important à voir petit à petit, de découvrir l'anthropologie, philosophie de l'art, du travail, philosophie éthique, philosophie politique, l'anthropologie. Tout est basé là-dessus. Et à partir de là, on redécouvre une philosophie de la recherche de la vérité pour elle-même, qu'on dit philosophie spéculative, c'est-à-dire contemplative, théorétique, on devrait dire philosophie théorétique. On recherche la vérité pour elle-même. Or, il y a une vérité au niveau du devenir, il y a une vérité au niveau du vivant, il y a une vérité au niveau de l'être. Trois modalités de la vérité. Et il y a une vérité ayant découvert l'existence de l'être premier, du créateur. Il y a une vérité sapientiale. Dans la lumière de la sagesse, je regarde tout. Et tout ça se tient organiquement. Il faut arriver petit à petit. Au début, je comprends très bien. Mais c'est très beau le jeu de mots de Licht. Licht. La lumière, Lichtung, l'avenue. Et c'est ces avenues qui donnent la lumière. Il y a quelque chose, c'est juste ça, c'est l'aspect poétique de Heidegger. C'est comme Platon, tu vois. Heidegger ne peut pas supporter Platon, mais il est notre Platon actuel. C'est tout à fait le Platon actuel, Heidegger. Avec un aspect un peu différent, c'est que c'est un Platon après Hegel. Alors il y a quand même un tout petit peu de différence, tandis que Platon est après Socrate. Pas tout à fait la même chose. Mais il y a une ressemblance très grande. C'est un poète, c'est un poète de l'être. Il est le héros de l'être. Il le dit lui-même, c'est le héros de l'être. Donc il proclame ce que c'est que l'être. Mais l'être de Heidegger, c'est l'être de Heidegger. Ce n'est pas l'être. C'est Heidegger qui pense l'être. C'est intéressant quand même de voir Heidegger qui pense l'être. Mais l'être pour lui-même, je crois qu'il n'y a qu'Aristote qui l'a vu. C'est quand même très curieux. C'est notre Everest. Les autres restent au Mont Blanc, européens. Je crois. C'est ça qui est très extraordinaire. Alors, Thomas d'Aquin s'en sert pour la théologie. Et si vous regardez bien, vous voyez que c'est pour ça que quelqu'un comme Hegel, qui est génial, dit qu'Aristote seul forme à la pensée philosophique. Heidegger ne dit pas ça. Pour Heidegger, il n'y a que lui qui forme la pensée philosophique, comme pour Platon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voie d'accès à la réalité qui est la philosophie du vivant? C'est quelque chose d'extrêmement curieux. Aristote est le premier qui a vraiment distingué une philosophie du vivant d'une philosophie de l'être. C'est son grand mérite. Avant Aristote, on avait distingué le devenir et l'être. Mais on n'avait pas distingué la vie et l'être. Platon n'a pas distingué la vie et l'être. Ni Hegel. Et le mérite d'Aristote, c'est d'avoir distingué l'être et la vie. Ce qui est très difficile. Parce que nous sommes des êtres vivants et nous sommes le grand vivant. Comment de biologiste. C'est le professeur Marois, que je connais bien, professeur, à la faculté de médecine à Paris. Qui me disait, lui qui a fondé l'Institut de la vie, il disait, dans les grandes rencontres scientifiques d'aujourd'hui, on voit, par rapport à la science biologique, les deux courants, les réductionnistes, on ramène la biologie à la physique. Il y a une continuité entre les deux. Et les spiritualistes, qui distinguent la vie de la matière. Alors, il me disait, lui, c'est son jugement, hein, ça m'intéresse d'entendre ça. L'Amérique est réductionniste et la Russie est spiritualiste, malgré le marxisme. Et quand je vais, parce qu'il allait même à Moscou, quand du temps marxiste il était invité, quand je vais en Russie, je trouve des biologistes qui comprennent que la vie ne peut pas se ramener à la physique, ne peut pas se ramener au monde physique. Quand je vais aux États-Unis, il parle de la majorité, il y a toujours évidemment au milieu de ceux qui disent ça, il y en a toujours quelques-uns qui sont spiritualistes. C'est très intéressant de voir ça. Et pour nous, il faut arriver à distinguer la science biologique de la philosophie du vivant. Ce qui n'est pas commode. La science biologique nous donne des quantités de renseignements qu'Aristote ne donne pas. C'est bien évident. Mais Aristote est le premier qui a distingué l'être physique de l'être vivant. Et d'une certaine manière, si cette distinction n'avait pas été faite, il n'y aurait pas la science biologique distincte de la physique. Alors qu'il y ait des relations entre le vivant et l'être physique, c'est bien évident. Il y a des relations, mais il y a avant tout une diversité. C'est à la mort, c'est quand l'être vivant est mort qu'il se ramène à la physique. Les poussières et du retour en poussière, ça c'est la sagesse d'une éthique religieuse. C'est une éthique religieuse, pas d'éthique chrétienne, éthique religieuse. Parce que l'éthique chrétienne dirait tu es poussière, mais tu se ressusciteras. Tandis que quand tu dis tu es poussière, tu retournes en poussière, c'est très vrai, mais c'est momentané, hein. Le retour à la poussière. Grâce à Dieu. Et donc, l'éthique chrétienne, tu es poussière, corruptible, tu mourras, mais tu ressusciteras. Et poussière, retourner à la poussière, c'est montrer que la vie, en définitive, par le corps, se ramène au physique. Mais que la vie, par l'âme, se distingue du physique. Donc, vous voyez, on retrouve toujours les mêmes problèmes, vous savez. Hein. Aujourd'hui, l'aspect réductionniste, ramener la vie au physique, c'est tous les positivistes. On mesure la vie. On mesure la vie. Et comme disait l'autre méchamment, on mesure la vie en tuant la vie. C'est-à-dire qu'on mesure le support de la vie, mais pas la vie. La vie est quelque chose de distinct, qu'il faut saisir pour soi. Très difficile à saisir. temps et les conditions nécessaires pour que la vie apparaisse. Mais la vie, on ne sait pas ce que c'est. Et le savant ne sait pas ce que c'est que la vie. Et le philosophe cherche à connaître ce que c'est que la vie. Il cherche. Et je ne dis pas que je sais ce que c'est que la vie. Je cherche. Et je sais qu'il y a là quelque chose qui est infiniment grand. La vie. La différence entre la réalité physique. Dans la Lune, il n'y a pas la vie. On a cherché. La condition nécessaire pour qu'il y ait la vie, il faut l'eau. Il n'y a pas d'eau dans la Lune. Il n'y a pas de vie dans le Soleil. Alors d'un côté c'est trop froid, de l'autre côté c'est trop chaud. Donc la vie, vous voyez, est nécessairement quelque chose qui implique un climat tempéré. Et c'est notre petite planète. Et ma vie est intérieure. Elle vient de moi. Évidemment, on peut violenter ma vie. On peut m'obusculer. On peut marcher sur les pieds. Et c'est quelqu'un qui me violente. Donc le vivant a son espace de vie. Il va avoir son intégrité de vie dans l'immanence. Et sur l'attaque, il se défend. On le sait très bien. Alors, l'expérience du vivant dans ce qu'il a de tout à fait propre, c'est qu'il est capable de se mouvoir. Et je crois que cela demeure l'expérience type du vivant. Il se meut. En parlant, en aimant, en pensant, et tous les degrés de la vie se tiennent dans les degrés du s'émoveré, se mouvoir. On se meut plus ou moins, parce que l'aspect physique qui est en moi, l'aspect matériel qui est en moi, vient limiter mon s'émoveré. On sait très bien.
Sur la
la digestion accapare l'intelligence, hein, et fait descendre l'intelligence ou ralentir l'intelligence. Mais peu importe. J'ai tout de suite pris l'aspect critique. Toute cette politique de la vie était le résultat d'une série d'expérimentations avec des instruments très parfaits. Et on devrait dire ça. La vie vue à travers tel microscope, la vie vue à travers telle expérimentation. On ne le dit pas, on dit science de la vie, biologie. Et j'ai tout de suite dit, pourquoi le philosophe ne prend-il pas les mêmes instruments? Pourquoi le philosophe qui parle du vivant n'a pas son laboratoire? Et il serait ensemble des recherches de sciences biologiques, où on prendrait les conclusions biologiques, on dirait à partir de là, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le sang de l'animal et le sens de l'homme. Vous savez qu'à un moment donné, on a cru qu'on pourrait avoir des singes qu'on éleverait et on aurait des réserves de sang pour l'homme. Alors il n'y aurait plus de donateurs de sang. On aurait des réserves. J'ai lu des articles, c'est déjà vieux, il y a 40 ans, je crois, qu'on a cru ça. Puis on s'est aperçu que c'était très très dangereux. Hein. Vous donnez du sang de singe. très bien élevé, mais ça veut rien. Des singes très très supérieurs. Et on a vu que c'est impossible. On veut pas. C'est très significatif. Hein. Et c'est très beau. La Bible dit l'âme est dans le sang. L'âme, c'est le sang. Dans un langage symbolique, c'est tout à fait juste. L'âme, c'est le sang. Alors, je ne sais pas si à partir des différents sangs qu'on a, on peut différencier les différentes âmes. Non. Parce que c'est une expérience biologique, l'analyse du sang, scientifique. Et on ne saisit pas l'âme à travers une expérimentation scientifique. Impossible. Tu vois, n'oubliez jamais ce que je vous ai dit à propos de Jean Bernard. Qu'est-ce que l'âme, dit Brigitte? Tu vois, c'est très important de se rappeler ça. Eh bien, j'ai tout de suite dit pourquoi le philosophe ne se sert pas de ses instruments. Parce qu'il veut saisir la vie à son origine. C'est-à-dire le jaillissement de l'opération vitale. Si vous analysez le sang, vous êtes obligé de faire une prise de sang. Et vous analysez ce sang qui n'est plus relié à sa source. C'est pour ça qu'il faut le garder et faire très vite l'analyse le plus vite possible. Donc, on analyse celui qui n'est plus vivant et qui est orienté vers la mort, qui n'est plus à la source. Le vivant doit être saisi dans sa source. Autrement, on ne saisit pas ce que c'est que le vivant. C'est très simple de voir que la science biologique ne saisit pas le jaillissement de la vie, mais saisit les effets de la vie dans la matière, dans la quantité, dans les organes, dans le sang, dans les os, dans le cerveau. Mais on ne saisit pas la vie comme telle. Or, le philosophe veut saisir la vie dans son originalité propre et non pas dans son effet, puisqu'il remonte à la cause. Pour saisir vraiment la source de vie. Et tout ce développement scientifique ne saisit que l'aspect les savants parlent de la genèse de l'embryon. C'est très intéressant. Moi, ça m'intéresse toujours beaucoup. C'est très intéressant de voir comment on analyse de façon étonnante le développement de l'embryon. Mais ça ne me dit rien sur la vie. Ça me dit quelque chose, si vous voulez, mais uniquement les effets, les fruits, l'aspect matériel est mesurable. Le microscope électronique est fait pour mesurer. C'est-à-dire, il agrandit la quantité, mais pas la qualité. La qualité ne peut pas être agrandie. Alors c'est un grand problème philosophique, hein. Qualité et quantité. Mais si je fais la philosophie de la quantité, la philosophie de la qualité, je vois que la qualité comme telle est indivisible. Elle est divisible parce que c'est la qualité du monde physique. Et alors, par son support, elle est mesurable. Mais la qualité comme telle n'est pas mesurable. Seule la quantité est mesurable. Or, la science me donne des connaissances extraordinaires, très affinées, de ce domaine quantitatif. Qualifié, il est qualifié, ce domaine quantitatif. Mais ce n'est pas la qualité que je mesure, c'est les effets de la qualité dans la quantité. C'est le propre de la connaissance scientifique et de l'expérimentation. On mesure les choses et on répète, parce que n'est expérimentable que ce que je peux répéter. Tandis qu'au contraire, l'expérience ne se répète pas. C'est ça qui est unique dans l'expérience. J'ai l'expérience de vous parler. Et si je donne un cours tout à l'heure, c'est plus la même expérience. Parce que le soleil a réchauffé un peu. Et puis vous auriez un peu plus faim. Alors, votre affamé n'a pas d'oreille. Et donc, on sent très bien que l'intelligence se réfugie dans l'estomac. On a très faim. On a très soif. On n'est plus intelligent. Toute l'intelligence est pour satisfaire un appétit. Toute l'intelligence est pour satisfaire la soif. C'est vrai, quand vous souffrez du pied, votre intelligence est dans votre pied. C'est une intelligence intelligente. Elle est dans le pied. Mon pied souffre. Je souffre dans mon pied. Et si je souffre très fort, je ne peux plus. Je ne peux plus faire de la métaphysique. Saint Thomas, dit-on, avait ce privilège extraordinaire de concentration. Alors quand il allait chez le dentiste, il réfléchissait à un problème métaphysique. Et tout était concentré dans le problème métaphysique. Il ne sentait plus l'arrachement d'une dent. Faites l'expérience. Je peux me concentrer et ma vie se concentre là-dedans. Et mon corps reste un corps qui n'a plus la vie. C'est ça l'extase. L'extase, c'est si je suis pris par quelque chose qui est au-delà de mon corps, au-delà du sensible, et je suis pris par le mystère. Et le philosophe qui pense très fort peut très bien développer intensément sa qualité de pensée et faire que le corps, quand il pense, est beaucoup moins présent, l'âme est beaucoup moins présente au corps. Donc, vous voyez pourquoi le philosophe essaie de comprendre ce qu'est l'expérience particulière et spéciale de l'opération vitale. Je n'expérimente pas directement la vie, mais j'expérimente des opérations vitales. Et cette expérience, ces opérations vitales, consistent à saisir de l'intérieur le jaillissement de la vie, le se movere. Je me meus. Et de saisir ce qui arrête. Alors, on voit tout de suite le danger de cette expérience, c'est l'aspect transcendantal du sujet. Et ceci est particulièrement fort pour le vivant de vie spirituelle, où la vie là est intense. Quand je réfléchis sur ma pensée, et que je veux réfléchir sur ma pensée, réfléchir sur le fait de l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est au-delà de tout ce que j'expérimente. Je suis passé du « ceci est ». C'est un acte vital. « Ceci est ». Cette table existe. « Ceci est ». Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est toujours une opération vitale, l'interrogation. C'est même une opération très vitale, l'interrogation. C'est peut-être là où je saisis la possibilité pour l'intelligence de décoller. Donc de dépasser le monde physique. L'être, mais oui, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais touché. Qu'est-ce que la blancheur ? Vous voyez, je touche là l'universel. La manière de connaître grâce à l'abstraction, c'est que l'universel apparaît. Et l'universel est un être de raison. C'est-à-dire un être qui provient de mon intelligence. Je n'ai jamais vu l'universel se balader dans les couloirs. Attention de ne pas le rencontrer, l'universel. L'universel n'existe que dans ma connaissance. Et tout mon langage a la marque de l'universel. Toujours. Puisque tous mes mots que j'emploie ont une modalité particulière d'être au-delà de la multitude des individus. Je peux vous parler à tous. C'est affolant. Donc je ne parle à personne. Si je parle à tous, je ne parle à personne. Et il y a des personnes qui sont comme ça. Voyez, on raconte l'histoire de Sartre, qui est très bonne, qui s'est réalisée réellement. Sartre faisant une conférence à la fin de sa vie, Sartre voyait très mal et puis fermait les yeux. On comprend. Et puis faisait une conférence qui durait très très longtemps. Il y avait beaucoup de personnes, mais ça durait très longtemps. Successivement, les gens, puisqu'on suit une conférence une heure, au bout d'une heure, on a un programme de vie, on doit partir. Les gens partaient, partaient, et Sartre continuait, continuait. Et alors il y a eu la dernière. Il s'est posé le problème. Dois-je avertir Sartre que je suis le dernier ? Ou dois-je partir sur la pointe des pieds ? C'est un problème métaphysique. C'est extraordinaire parce que ça montre que quand on parle à personne. Puisqu'on parle à tous. Et tous ces personnes. Parce que tous, c'est un être de raison. C'est l'universel. L'universel, c'est tout. Vous voyez, c'est très curieux, ça. Vous voyez, là, vous situez la situation limite du conférencier. La situation limite. Parce que normalement, quand on parle pour quelqu'un. Et on doit toujours parler pour quelqu'un. Si on parle pour tout le monde, on ne parle pour personne. D'où un langage abstrait. Tandis que quand on parle pour quelqu'un, on parle pour quelqu'un. Oui, c'est pour saisir là comment on peut passer facilement d'un langage réaliste à un langage logique en restant le tout et on quitte le dialogue personnel. Vous voyez la réaction de l'existentialisme par rapport à l'essentialisme. Il y en a dit qu'il y a deux formes d'être thomiste, l'essentialisme du père Garrigou-Lagrange et l'existentialisme de Forest. Deux thomistes. Vous voyez, on voit très bien comment l'expérience du vivant est toujours réaliste et personnelle. c'est vrai. On fait l'expérience d'un manque. C'est l'aspect négatif. Ce n'est plus l'expérience de la vie. C'est une expérience, vous voyez, de la négation. Sartre continuant de parler alors qu'il n'y a plus, il fait l'expérience de la négation. Et pour lui, la négation est en première. Il fait l'expérience vraiment de ce qu'il est. Je vais jusqu'au bout de son système, puisque c'est sûrement le philosophe qui a le mieux parlé de la négation. C'est les pages les plus intéressantes de Sartre, c'est quand il parle de la négation. C'est pas vrai, parce qu'il substantifie la négation. Il en fait quelque chose de réel, alors que la négation est un pur être de raison. La négation n'existe pas dans le réel. C'est pour ça que la critique, qui est le point de vue de la négation, n'existe que dans l'intelligence, n'existe pas dans la réalité. Chaque fois que vous critiquez, vous formalisez une limite. Et en formalisant la limite, vous n'êtes plus dans la réalité. Et le primat de la critique vous conduit à l'idéalisme. Conduit à la logique. Parce qu'il n'y a que l'intelligence qui, elle, produit l'universel. Donc vous voyez, c'est intéressant ça, parce que ça montre la différence d'une philosophie du vivant qui est juste l'inverse.